Le thème de cette journée, c'est la saisie et le lâcher prise. Voilà, le mot saisie est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup dans notre quotidien. Donc je vais essayer de décrire un petit peu plus ce dont il s'agit. Le terme lâcher prise est un terme, c'est un mot composé, inventé assez récemment, qui n'existait pas dans notre passé, en fait, et qui essaye de désigner une attitude de l'esprit. Et c'est un terme qui a été beaucoup, beaucoup utilisé dans notre dernier siècle, et qui, du coup, est aussi très, très chargé. Et bizarrement, je le trouve, ce terme, et ça me pose problème, et ça me pose une difficulté, même pour la présentation ici, je le trouve chargé de, comme si c'était un domaine simple un peu. Souvent, il suffit de lâcher. Il y a cette notion un peu. Le lâcher prise, ça va presque avec il suffit de. Il y a, en tout cas, dans certains discours qu'on a beaucoup entendus et tout ça. Et en y réfléchissant un peu, c'est déjà pas un terme que moi j'ai beaucoup utilisé dans ma spiritualité. En y réfléchissant, là, je remarque que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et cette simplification, elle peut parfois être utile, comme toute simplification. Elle nous permet de manipuler une idée et de l'utiliser, et parfois d'avoir un résultat direct. Mais ça reste une simplification qui parfois met une pression aussi, comme si du coup on était un peu incapable de lâcher. Pourquoi moi je suis incapable de lâcher Voilà. Alors qu'est-ce qu'on lâche? Ben souvent ça va être beaucoup autour du désir, bien sûr. Et voilà, donc je me rends compte en fait que même je discutais avec un ami hier, je disais ah ben demain le thème c'est le lâcher prise, et je lui disais bah ça me met quand même pas mal au défi en fait ce terme et cette journée de mind. Ah bon? voilà, comme si c'était au contraire un domaine assez simple. Simple à comprendre, simple à expliquer, pas forcément simple à faire, hein, mais simple à comprendre. Et non, vraiment la complexité en fait de ce que veut dire lâcher prise, c'est phénoménal et c'est fondamental en fait. Et c'est ça qu'on va voir dans l'approche présentée par le Bouddha. On peut tout comprendre, tous ses enseignements sous le regard du lâcher prise en fait. C'est tout. Tout est un enseignement de lâcher prise, de lâcher, de lâcher. Donc là, j'ai envie d'essayer de parler d'abord du lâcher prise un peu plus dans notre quotidien, à la surface de notre vie, un peu dans sa superficialité, et je ne dis pas ça d'une façon péjorative, mais dans notre vie de tous les jours, mais aussi d'aller voir ce que ça peut vouloir dire au plus profond de nous-mêmes et pour accéder justement au plus profond de nous-mêmes, ou le lâcher, où ça devient un moment lâcher, par exemple, lâcher l'identification. Ça aussi, ça sera le lâcher. Et on en a parlé, je pense, il y a eu des questions un petit peu par rapport à ces espaces qu'on trouve parfois en méditation où soudainement il y a une peur. Eh bien, là aussi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit lâcher. Et là aussi, cette notion et cette direction d'apprendre à lâcher est essentielle. Mais pour commencer avec ce concept, cette idée, on l'entend le plus souvent, ben bien sûr, c'est dans le quotidien. On a un désir de quelque chose, et puis ce désir, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas sain pour nous, par exemple. Et du coup, on a envie de le lâcher, et on y arrive ou on n'y arrive pas. Alors déjà, par exemple, je me faisais la réflexion, même on est à table avec des amis, et puis on a envie de prendre une part de gâteau supplémentaire. Et puis, pour plein de raisons, en fait, on sait qu'il ne faudrait pas la prendre. On a nos raisons, chacun a ses raisons. On n'aurait pas les mêmes autour de la table. Mais ça peut être pour la ligne, ça peut être pour la santé, ça peut être parce que sinon les autres ils vont penser que voilà, ils vont se faire une image de nous. On peut avoir plein de raisons de se dire, ben voilà, il ne faut pas que je prenne cette part de gâteau. Et là, donc de nouveau, il pourrait y avoir cette ben, il suffit de lâcher. Mais en fait, pour qu'on puisse lâcher, il y a La totalité de ce qu'on est, de notre relation à nous-mêmes, de comment, dans quel état émotionnel on se trouve à ce moment-là, c'est fondamental sur notre capacité de lâcher dans le moment. Donc, c'est pas juste il suffit de lâcher, ça dépend beaucoup du contexte, avec qui on est, quelle est l'attitude des autres, quelle journée est-ce qu'on a passé, quel est notre état d'esprit en ce moment, quel crédit est-ce qu'on apporte à notre santé, qu'est-ce que ça veut dire pour nous être en bonne santé, c'est des concepts tout ça. Et quelle importance est-ce qu'on donne à ça? Tout ça et bien plus est en jeu pour savoir si on va tendre la main pour prendre ce morceau de gâteau ou non. C'est pas juste lâcher, pas lâcher. Pour que ça lâche ou que ça lâche pas, ça sera le résultat de tout un contexte et peut-être aussi de nos pratiques passées. Enfin, voilà, il va y avoir tout ce qu'on est qui se joue dans ce moment-là, en fait. Et qui va permettre de lâcher ou non. Parfois, vous avez peut-être déjà rencontré des personnes qui ont été fumeuses pendant longtemps et qui un jour se sont dit, bah, moi je me suis levé et puis ça y est, j'avais plus envie, c'était fini, c'était parti. Et là, voilà, il y a quelque chose qui a lâché. Et j'ai un ami qui me disait, bah oui, un jour j'ai juste lâché. Et là, de nouveau, si on voulait regarder le processus qui a eu au préalable, depuis pratiquement sa naissance et sa construction, pour en arriver à ce moment où ça a lâché, ça inclut la totalité de la personne, en fait. Donc ce qu'on lâche, c'est la saisie. Peut le dire comme ça. Ce qu'on lâche, c'est la saisie. Donc au moment où on est autour de la table et qu'on a envie de ce morceau de gâteau, il y a saisie. Voilà, ça veut dire en fait que l'esprit s'arrête sur quelque chose et qu'il ne continue pas son chemin. Là, il s'y arrête et il y revient. Et du coup, on ne pense qu'à ça. Et il y a un combat intérieur autour de ça. Alors, quelle sera la finalité? Ben, ça reste à voir. Là, il y a une saisie, une pensée qui était, ou quelque chose qui aurait pu être passager, même le désir peut être passager, hein, peut venir et puis hop, il repart. Mais hop, on l'a saisi et il est maintenu. Et du coup, voilà, ce qu'on lâche, en fait, c'est la saisie. Donc, une chose qui est intéressante à faire dans notre quotidien, c'est au moment où il y a du désir, et il y en a tout le temps, en fait, au moment où il y a du désir, enfin pas tout le temps, mais il y en a très très souvent dans nos journées, au moment où il y a du désir, on peut déjà jeter un coup d'œil à quelle est notre atmosphère intérieure. Souvent, quand il va y avoir un désir qui s'accroche et qui devient très très important, ça peut cacher le fait qu'il y a un état intérieur inconfortable. Par exemple, de la solitude. On se sent un peu seul. Il ne se passe pas grand-chose pour le moment, de l'ennui. Voilà. Et du coup, l'esprit s'accroche à ça serait bien si je pouvais. Voilà. Ou pour les fumeurs, à ce moment-là, ça va être à ce moment-là peut-être que le désir de cigarette va venir et s'accrocher et ne pas être lâchable. S'il y a un état de tristesse, peut-être. Voilà. Ou un état de critique intérieure. Un état déplaisant. Et du coup, le désir va être d'autant plus fort parce qu'il est renforcé par quelque chose qu'on veut suivre, qu'on veut fuir. Pardon. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans notre pratique quotidienne. C'est quand il y a un moment où il y a du désir qui vient, c'est de voir un peu pourquoi il s'installe et pourquoi il devient une saisie aussi forte. Ce qu'on peut voir aussi souvent, c'est que le désir s'installe parce qu'on veut fuir quelque chose, et le désir qui va s'installer, il va être différent d'une personne à l'autre. C'est assez individuel. Alors on en partage. Comme par exemple le désir de morceaux de chocolat, ou la cigarette va être un désir pour beaucoup. Donc il y a des familles, on va dire, mais ça reste quand même souvent individuel. Et il y a un processus, par exemple pour moi, pendant des années, donc quand j'étais jeune, pendant très longtemps je fumais de l'herbe, et pendant des années c'était super, et puis à un moment c'était plus super. Mais il y a eu toute une période de ma vie où j'aurais voulu ne plus fumer, mais j'arrivais pas à m'arrêter. Et donc, je décidais, non, là, maintenant, j'arrête. Et alors, j'étais chez moi le matin, avec une journée assez libre. Je me rappelle plein de moments comme ça. Et puis, non, j'ai pas envie de fumer, j'ai pas envie de l'état, en fait. J'avais plus envie d'être dans cet état que j'avais tellement apprécié avant. Et donc, je tourne en rond et tout. Et puis, un moment, il y a quelque chose qui. Voilà. Donc, il y a un combat pour résister, pour ne pas céder au désir. Et puis, un moment, il va y avoir. Bon, ok, allez, je me fais un petit joint et demain, j'arrête. Hein, on le connaît tous. Et là, déjà, il y a un truc, il y a plein de trucs super intéressants dans cet exemple. J'ai appris beaucoup d'avoir vécu ça. Déjà, j'ai remarqué que au moment où je dis demain j'arrête, mon esprit, qui lui ne connaît pas le temps à la manière dont moi je le connais, il est dans le j'arrête comme si c'était fait déjà. Et du coup, le demain ne compte pas beaucoup. Et il y a quelque chose qui se relaxe. C'est comme si c'était justifié de pouvoir fumer parce que en même temps, je peux fumer et en même temps, j'ai déjà arrêté presque. Ce que j'ai remarqué avec ce combat, en fait, combat, bon, c'est énorme, mais c'est que il y avait plus de satisfaction. En fait, la satisfaction venait du fait qu'il n'y a plus la tension due au désir. Le fait d'avoir dit oui au désir enlevait la tension et que la plus grande souffrance, en fait, c'était pas le fait de ne pas fumer. C'était le fait d'avoir un désir non assouvi, qui est là et qui me travaille, et qui me travaille, et qui me travaille. Et du coup, la récompense, c'est l'arrêt d'être dans l'état de désir. C'est pas la chose, c'est pas le fait d'avoir le joint dans ce cas-ci, ou le morceau de gâteau, ou. C'est juste que ça s'arrête d'être dans cet état. Il y a un état très. C'est un état, d'ailleurs, dans le bouddhisme, si vous vous rappelez, je vais relire le texte, je crois que je l'ai là. Dans les quatre nobles vérités, donc qu'on avait lu à la première retraite, le premier discours du Bouddha, le premier discours fondateur du bouddhisme qu'il a donné au parc de Sarnath, la deuxième vérité, les causes de la souffrance étant toute tension ou toute insatisfaction qu'on peut avoir dans nos moments de vie. Donc, dans les causes de la souffrance, il dit, voici Bhikkhu, la noble vérité de. Bhikkhu, c'est les moines. Donc, il parle à des moines. Voici Bhikkhu, la noble vérité de la cause de la souffrance, c'est le désir avide, la soif. Donc, la soif, comme on a soif de vengeance, par exemple, le désir de vengeance. C'est vraiment le côté avide, en fait. On va parler, on va se concentrer sur le désir avide, celui qu'on n'arrive pas à arrêter. Celui qui nous a saisis, donc, hein, pour se mettre d'accord sur les mots. La soif des plaisirs des sens, de l'existence et de la non-existence. On y reviendra à ça. La soif, donc le désir, le plaisir des sens, de l'existence et de la non-existence. Donc, ça, c'est la cause de la souffrance. Et en fait, c'est la souffrance elle-même. On le voit dans d'autres explications du Bouddha. Le désir, c'est un état de souffrance. Être dans les désirs, c'est un état de souffrance. Et la cessation de cet état, il y a plusieurs approches. Alors, on entend parfois dans des philosophies, la meilleure manière pour qu'un désir s'arrête et que donc cette souffrance s'arrête, c'est de dire oui au désir. Et du coup, ça s'arrête. Sauf que ce qu'on peut constater, si on le regarde, c'est que quand on dit oui à des désirs et qu'on prend l'habitude de dire oui à tous nos désirs, je le vois aussi beaucoup avec mon fils, eh ben, ça grandit, ça devient un monstre indomptable, un peu le désir. Et c'est jamais vraiment satisfait, en fait. Ça fait juste une pause. Mais ça n'a pas l'air de satisfaire tous les désirs qu'on a, n'a pas l'air d'être une solution viable, d'autant plus que souvent, les désirs qu'on a, pour les satisfaire, on va mettre. Notre santé en péril, par exemple, où on va faire beaucoup de pression sur la planète, sur l'écologie, sur notre compagnon, hein, quand on a notre compagnon, notre compagne, quand on a des désirs de sexualité et que l'autre à ce moment-là n'a pas forcément envie, si on n'est pas à même de lâcher ce désir, à ce moment-là, on va mettre de la pression dans le couple, par exemple, et de la manipulation et des choses pas cool, en fait, parce qu'on n'a pas cette capacité de laisser partir. Ce qui s'est figé, ce qui s'est saisi à ce moment-là. Donc, je trouve que c'est intéressant, ceux qui veulent, ici c'est très pratico-pratique, ceux qui, quand on veut vraiment réussir à lâcher un désir qui nous a saisi, parce qu'on n'a pas envie d'aller dans cette direction dans laquelle il veut nous amener, de voir que notre combat, c'est d'apprendre à lâcher le désir lui-même et pas lâcher le morceau de gâteau ou la cigarette ou l'envie de faire l'amour. Ou... C'est pas ça vraiment qu'on lâche. Ce qu'on lâche, ce contre, c'est cette énergie du désir qui nous a pris. On apprend à voir presque toujours la même chose. C'est toujours la même chose qu'on lâche. C'est le désir à ce moment-là qu'on lâche. Que ce soit le désir de ceci ou le désir de cela, c'est plus ça l'important. Dans notre pratique spirituelle, c'est un apprentissage de lâcher l'emprise qu'a le désir sur moi. Et quand on pratique, on découvre en fait qu'il y a quelque chose de magnifique. C'est qu'au moment où on arrive à ne pas satisfaire de ce désir, mais à le lâcher, donc à ne pas rester dans l'agitation, la soif s'arrête. Et à ce moment-là, il y a un état de bien-être qui est agrandi par rapport à si on avait. Par exemple, si je prends ce bout de gâteau, après ça, il va y avoir. Je donne des outils à ma critique intérieure pour me taper dessus de nouveau. Hein, parce que, ah, encore, t'as été, par exemple, il peut y avoir du jugement, tu as été faible, ou ceci, cela, ou pour ta santé, tu ne te rends pas compte. Enfin, il peut y avoir. On va se retrouver dans une certaine atmosphère. Et par contre, si au contraire, on a trouvé une relation saine avec ce désir, c'est-à-dire qu'on a réussi à le lâcher sans forcément devoir l'assouvir, à ce moment-là, on se retrouve dans une toute autre atmosphère. On se retrouve dans une atmosphère qui est assez plaisante. Il y a déjà de la satisfaction personnelle. Il y a un renforcement de l'image de soi. Ça, on peut le sentir. J'espère que vous pouvez le voir dans votre expérience. Il y a aussi le fait qu'on a souvent, dans les exemples que je prends, eh ben, on est plus aligné avec une certaine simplicité. C'est toujours revenir vers une certaine simplicité. Lâcher des désirs. Souvent, les désirs nous amènent vers une grande complexité. Et quand on ne s'engage pas vers la satisfaction de tous ces désirs, on revient à une plus grande simplicité. Donc, on se simplifie peu à peu. Et de ça, on sent qu'il y a quelque chose presque de comme de revenir à nos racines, d'être plus proche de comment étaient nos ancêtres, quelque part. Surtout dans. Le monde d'aujourd'hui où on a énormément de sources de distractions et pour aller nous distraire ou nous satisfaire avec tout un tas de choses qui n'existaient pas du tout avant. Et quand on arrive à laisser un petit peu tout ce besoin de se distraire, tout ce besoin d'aller chercher la satisfaction à l'extérieur, à ce moment-là, on se retrouve un peu plus posé dans quelque chose qui existe depuis très très longtemps et qui est on sent quelque chose d'ancestral, de plus juste, de plus naturel, de plus ancestral, de plus universel aussi. C'est intéressant aussi de constater qu'en fait on va lâcher un désir pour un autre. Pas juste un désir comme ça dans le vide. Alors pas on y reviendra à ça, mais pour le moment partons avec ça. On lâche un désir pour un autre. Par exemple, on va de nouveau pour le bout de gâteau, et ben on lâche le bout de gâteau pour être en bonne santé, par exemple. Hein? Pour notre ligne ou pour quoi que ce soit. Donc on a le désir d'être en bonne santé. Donc si on regarde, on peut toujours trouver pourquoi je veux lâcher ça, et hop, il y a une raison, parce que je désire autre chose. Je désire être plus simple, je désire changer de vie, je désire être autrement. J'ai une amie qui quitte son appartement pour le moment, Myriam, certains d'entre vous la connaissent. Elle a décidé de quitter sa maison. Elle habite en ville et ça lui convient plus trop. Elle ne sait pas trop quelle est la suite et du coup, comme c'est l'été, elle va partir avec sa tante pendant 3 mois et puis elle verra bien après. Donc on ne peut pas dire là qu'elle lâche pour un projet vraiment clair et établi, elle lâche un peu dans l'inconnu, mais elle lâche parce qu'elle a envie d'autre chose, elle a envie d'un changement. Donc elle a un désir d'autre chose. Donc on va lâcher un désir parce qu'on suit un autre désir. Et du coup, là, ça installe une certaine hiérarchie, en fait, dans nos désirs. Quels sont les désirs qui nous conduisent là où on veut aller et quels sont nos désirs qui nous conduisent là où on ne veut pas aller? Et dans quelle mesure est-ce qu'on arrive à lâcher ceux qui construisent de la souffrance pour aller vers des désirs qui construisent de moins en moins de souffrance? Et c'est là que on peut passer des pratiques de bien-être un peu aux pratiques spirituelles, à cet endroit où Par exemple, si je lâche le désir de sucre, et donc voilà, j'ai décidé de ne plus manger du sucre parce que je sais que c'est pas bon pour mon cerveau, c'est pas bon pour mon énergie. À ce moment-là, le fait de lâcher le sucre, il va y avoir du sucre, j'en ai très envie, mais je le lâche parce que j'ai le désir, en fait, d'explorer cet état dans lequel mon corps est moins intoxiqué par le sucre. Et ben, c'est une pratique de bien-être. Et puis après, dans la spiritualité, on commence à s'infuser de visées et de désirs peut-être plus profond, plus universel, plus ouvert, comme par exemple il va y avoir par exemple le désir de ne plus manger de viande. Ça peut être, soit c'est une pratique de bien-être parce que la viande c'est par exemple mauvais pour le corps, toxique ou voilà pour des raisons comme ça, ou ça peut être parce que on pense que voilà, pour les animaux, ça crée énormément de souffrance. Et du coup, même si on aime la viande, on arrête de manger de la viande. À ce moment-là, on a le désir du bien-être des animaux. Et là, on en vient sur les pratiques de bienveillance, qui sont des pratiques de lâcher prise, bien sûr. La pratique de bienveillance, le thème de la dernière séance, c'est à chaque fois une pratique de lâcher prise. Et donc là, on commence à lâcher et avoir des désirs qui sont plus juste à propos de nous-mêmes, mais à propos de quelque chose de plus grand. Je pense que ça pourrait peut-être être, parce que c'est difficile la frontière entre les pratiques de bien-être et les pratiques spirituelles, et ça pourrait peut-être faire une certaine distinction à voir. Et donc pour nous aider à lâcher des désirs, à lâcher la saisie, à lâcher le fait que l'esprit s'arrête sur quelque chose et que ça devient qu'on devienne un peu obnubilé, c'est ça la soif en fait, l'obnubile, eh bien on va utiliser ou se servir d'autres désirs qui sont plus sains. Et dans le bouddhisme, il va y avoir au départ le désir de sortir du cercle des renaissances. Alors ça pour nous, ça ne nous dit pas grand-chose, hein, sortir du samsara. C'est un peu l'équivalent, on va dire, du paradis chrétien. Voilà, c'est pas du tout pareil, mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose d'ultime comme ça. Et puis après... est venu dans le bouddhisme Mahayana ce désir et ce vœu, du coup, de sortir de l'illusion de manière à pouvoir aider toute personne qui souffre. Hein, ça s'appelle le vœu du bodhisattva. Donc, choisir de s'éveiller. De se libérer totalement de la confusion, de manière à pouvoir aider toutes les personnes en souffrance. Et le vœu est porté de ne pas revenir dans le cercle, de toujours revenir dans le cercle des réincarnations jusqu'à ce que tout le monde soit libéré. Donc là, ces personnes en fait se posent un désir, un projet, un objectif. Moi, je trouve ça super intéressant en fait parce que on a souvent l'impression que tout est à propos du moment présent, mais là, en fait, c'est loin devant, quoi. Qu'il n'y ait plus personne qui soit en souffrance, et je veux dire, c'est un engagement, et il faut prendre en considération, ce sont des gens pour qui sortir du cycle des réincarnations, c'est la vision ultime de l'achèvement. Et là, ils changent l'objectif en disant, je reviendrai dans ce monde tant qu'il y a une personne en souffrance. Et du coup, ce vœu, ce désir profond d'aider, d'être ouvert et d'être présent à tout le monde, devient ce qui sert pour lâcher tout ce qui ne mène pas dans cette direction de la fin de la souffrance. Que ça soit au niveau des désirs superficiels, quels qu'ils soient, et que ça soit, comme on va le voir plus tard, au niveau des désirs, le désir par exemple de devenir quelqu'un de célèbre, le désir de devenir riche, le désir d'être spécial, le désir simplement d'être quelqu'un, le désir d'avoir une identité, d'avoir de la reconnaissance. Tout ça est à lâcher. pour atteindre cet état d'éveil qui va pouvoir permettre vraiment d'aider chacun. Alors, méditation, la pratique de la méditation est, on peut le voir de nouveau, comme une pratique de lâcher prise. Donc, on s'installe en méditation. Je parle de la méditation assise, pas celle qu'on a guidée avant. Ça, c'est une autre pratique, c'est aussi une pratique de lâcher prise, mais qui n'est pas dans l'approche du bouddhisme qu'on explore maintenant. Donc, je vais rester dans celle qu'on explore maintenant. Mais je proposerai très certainement, j'ai bien envie de proposer des retraites de méditation allongées aussi. Mais c'est tout à fait autre chose. Donc je vais essayer de ne pas mélanger trop ces mondes, même si l'intersection est grande. Mais dans la méditation assise, c'est une méditation dans laquelle on a plus de contrôle que vous l'avez probablement remarqué, que par rapport à la méditation allongée. Et donc là, dès qu'il y a notre attention est par exemple d'être avec notre respiration, avec tout l'inspire, avec tout l'expire, et dès qu'il va y avoir une pensée qui vient, eh ben en fait, on lâche la pensée. On lâche la pensée pour pouvoir revenir à la respiration. Donc on apprend à lâcher. On apprend à lâcher. Et quand on dit on lâche la pensée, en lâchant la pensée, on lâche la totalité du monde construit de nous-mêmes. C'est pas rien. Lâcher la pensée, c'est pas rien, parce qu'on va, peut-être pas la totalité, c'est excessif, mais une grande partie de ce qui est notre processus d'individualité, quand on lâche la pensée. Donc dans nos pensées, il va y avoir, par exemple, disons que souvent, quand on lâche la pensée, souvent en méditation, ce qui est difficile, on va souvent entendre quelqu'un dire: moi j'ai tellement envie de ce silence et de cette paix intérieure. C'est vrai, mais on adore notre télé. La télé qui est dedans, qui raconte des histoires, qui fait vivre des émotions, qui fait vivre des films et tout ça. Et parfois, parfois on n'arrive pas à l'arrêter, parce que plus le contenu émotionnel est fort, plus la pensée est forte. Mais parfois aussi, on n'a pas envie. Parfois aussi, on n'a pas envie, parce que les histoires qui sont là, nous font sentir vivants ou nous divertissent, parce que juste avec la respiration, quand on n'a pas encore découvert le goût du silence, il y a beaucoup d'ennui. Et du coup, la pensée est un divertissement. Et du coup, lâcher la pensée, voilà, c'est pas toujours simple. Ça me rappelle une amie qui travaillait dans un hôpital, et quand elle revenait chez elle, à chaque fois elle racontait, alors elle parlait à son mari, elle racontait comment l'hôpital c'était horrible, comment l'ambiance dans l'équipe c'était la catastrophe, et puis les histoires de Macha qui est sorti avec Bazar, et la firme, enfin il y avait des histoires, et puis le système hospitalier et tout, enfin c'était vraiment pas drôle. Et puis elle était choquée, elle était outrée, elle en avait marre et tout. Et puis, à 20h, eh ben, elle regardait un épisode de Urgence, qui était un téléfilm sur l'hôpital où ça ne se passe pas très bien, où il y a des histoires entre les médecins et les infirmières. Exactement ce qu'elle disait, en fait. Et elle y retournait à 20h. Et quand on l'entendait, mais vraiment, elle en avait marre. Et on peut reconnaître un petit peu un processus de nous-mêmes aussi là-dedans, dans quelque part l'addiction à la pensée et à tout ce qu'elle génère, et dans notre difficulté à lâcher ça. Si on avait vraiment, vraiment un seul désir, qui n'était pas le désir de se perpétuer à travers les histoires qu'on crée, le désir de vivre des émotions, et le désir de diversité, le désir de devenir quelqu'un, le désir d'avoir des stratégies pour être reconnu, le désir de continuer à construire cet ego parce qu'on a envie, on a envie qu'il soit aimé. Si on n'avait qu'un désir, c'était de quitter tout ça et de goûter vraiment le vide, ça irait beaucoup plus vite, hein. Mais on a des désirs multiples, bien sûr. Et c'est pas forcément malsain. Mais c'est parce qu'on a besoin de tous ces désirs qui nous construisent. Mais c'est intéressant de reconnaître ce processus de quand on est en méditation et qu'on revient à la respiration, à chaque fois, on doit lâcher la pensée. Et quand on lâche la pensée, on lâche la construction de l'individualité aussi. On lâche ce projet de nous-mêmes. On lâche ce qui nous fait sentir différents. On lâche peu à peu le sens d'identité. On lâche peu à peu ce dans quoi on a tout investi. Quand on regarde le travail que c'est de construire et de maintenir un ego, c'est énorme. Quelqu'un qui pratique la méditation régulièrement et qui regarde ce qui se passe dans sa tête voit très vite qu'en fait il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, de densité et d'enjeux engagés dans la construction de l'image de nous-mêmes. Et dans comment cette image de nous-mêmes est agressée, dans comment on gère ça, et dans comment c'est. C'est là que énormément de choses se jouent, se passent, et des émotions que ça génère, et de la manière dont on gère ces émotions, et de ce que l'autre en pense, et de l'image qu'on veut renvoyer, et de ce qu'on veut devenir. Il y a la construction de l'ego, donc ou ce qui est parfois appelé le super-ego, cette espèce de surenflement de nous-mêmes, où vraiment on veut être super spécial. Et puis il y a spécial d'ailleurs quelqu'un de magnifique ou spécial la plus grande victime sur Terre. Hein. C'est pas forcément quelqu'un de magnifique, mais spécial. Hein. Et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées qui sont dédiées à cultiver, maintenir, parce qu'il y a besoin d'une maintenance. Il y a besoin d'une maintenance pour que cette image existe. Donc, il y a un travail constant de l'esprit à maintenir cette image de quelqu'un de spécial, à la développer, à la transformer, à la voir à travers les yeux des autres, voir un petit peu comment les autres voient ça, comment. Donc tout ça est un engagement de l'esprit qui est absolument énorme. Et à la base, il y a un désir qui est le désir d'être spécial, le désir d'être quelqu'un, qui n'est pas forcément un mauvais désir, dans le sens où c'est là que ça devient compliqué. Parce que on doit prendre soin de deux mondes. Le monde de ce qui est construit et de ce qui nous sert à fonctionner, qui est absolument essentiel, et puis cette réalité de nous-mêmes qui existait, qui préexistait toute construction, et qui, elle, est beaucoup moins individuelle à cet endroit de nous-mêmes où on n'est pas séparé du coup. Dans ce discours, il y a un endroit qu'on retrouve. Souvent dans la spiritualité, il y a un endroit où il y a tout le temps des contradictions. C'est tout le temps en contradiction. Et il y a plusieurs raisons à ça, comme des incompréhensions, du manque de clarté. Mais il y a aussi le fait que dans la spiritualité, on peut toujours dire quelque chose et dire son opposé. Et les deux peuvent être justifiables. Et d'ailleurs, c'est une pratique dans certaines traditions du bouddhisme tibétain. C'est qu'il y en a un qui va défendre un point de vue. Il y en a un qui est assis, l'autre qui est debout. Et celui qui est debout, il défend un point de vue et il tape dans les mains en disant ses arguments. Et je dis que la nature de la réalité. Et je dis que, ok. L'autre écoute. Et puis après ça, il se lève et il doit démontrer exactement l'inverse et que ça ait du sens aussi. Et c'est faisable à chaque fois. Donc, on a besoin, dès la naissance, de se construire une identité. Ça se fait, elle se construit. Et on a besoin de travailler sur cette identité pour qu'elle soit de plus en plus, ça c'est de nouveau un travail personnel, on doit travailler sur notre identité pour qu'elle soit de plus en plus ouverte, fonctionnelle, aimante, résiliente. Voilà, et là, il y a donc acquérir des qualités. Hein, tout ça est absolument nécessaire. Et puis, toute une direction pointée et recherchée dans la méditation, c'est voir qui on est au-delà de cette identité qui s'est construite. Et du coup, ce n'est pas vraiment les mêmes règles de fonctionnement. On parle souvent de relatif et d'ultime. Donc, on passe énormément, énormément, énormément de temps dans la construction de l'identité. Et c'est un peu, quelque part, je pense, un échec dans notre société à ce stade, c'est qu'il manque cette étape qui est l'étape spirituelle, qui est la réalisation que oui, cette identité, elle est nécessaire pour fonctionner, mais elle n'est pas la totalité de ce qu'on est. Ça, à mon avis, c'est donc il y a le petit enfant qui est un, qui n'y a pas de distinction entre lui et tout le reste. Peu à peu, il reste un avec sa maman, paraît-il, d'après ce que je disais. Il paraît même qu'il commence à prendre conscience de son individualité quand il attrape ses pieds. J'ai entendu dire ça, qu'il commençait. C'est vraiment au niveau du corps qui commence à se séparer, prendre conscience de son individualité. À partir de là, va commencer un long travail de construction. Hein, il a déjà des qualités essentielles, on va dire, mais il va se construire une personnalité en fonction de ce qu'il vit, en fonction de son contexte familial, en fonction de ses expériences, en fonction de la société dans laquelle il vit, en fonction de ses lectures, en fonction de tout ce qui va être vécu. Tout va peu à peu définir une personne qui a une certaine forme. On va appeler la personnalité. Krishnamurti appelait la personnalité, c'est l'ensemble de nos limites. Je trouve que c'est très intéressant aussi comme. Donc, on a tous pris une certaine forme en fonction de la totalité de ce qu'on a rencontré dans notre contexte et de nos expériences. Et cette forme, on a besoin d'en prendre soin, d'y porter attention, et beaucoup de pratiques de méditation portent attention à cette forme, d'y porter attention et de la peaufiner, de la travailler, surtout de lui permettre de réouvrir, 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 réouvrir. Mais Krishnamurti, toujours, qui est quand même quelqu'un d'assez sec, disait travaille le. Ah, comment est-ce qu'il disait ça? Alors, je ne me rappelle plus du terme, il disait pas le travail personnel, mais c'est le travail sur soi. Je ne sais plus le terme qu'il utilisait. Self-improvement, voilà. Le développement de soi-même, c'est comme aménager sa prison. Voilà. Aménager et agrandir sa prison. Et alors c'est sec, ça me plaît pas totalement, parce que je pense que du coup c'est cette notion que y a une sortie ultime qui est la seule sortie, et je pense que il y a un truc qui ne me plaît pas dans cette vision-là. Je pense que c'est le mot prison qui est péjoratif. Et je pense qu'il y a énormément de beauté parce que c'est ça, c'est là la vie. En dehors de ça, alors il pointe bien sûr à une existence en dehors. Il y a quelque chose qui est dans la prison, mais qui existe et qui peut ne pas être dans la prison. Hein, donc là, hop, on repasse au discours ultime qui existe en dehors du temps, qui n'est pas quelque chose qui a début, une durée et une fin, qui est quelque chose qui est toujours présent. Ah, c'est des discours qu'on entend beaucoup en méditation. Et donc c'est à ça que ça pointe. Et ça, ce sont des discours ultimes. Donc, on dit que c'est l'ultime. Mais la nécessité est de prendre soin des deux mondes. C'est ça ce petit. Allez, je vous le trouve. Donnez-moi une seconde. Texte là de Ajahn Chah. Ajahn Chah, qui était un grand maître bouddhiste, qui était notamment le maître de Jack Canfield, qui est un des enseignants qui a ramené un peu les pratiques de la méditation et qui les a vulgarisées en Occident. Et donc Ajahn Chah disait, vous devez connaître à la fois l'universel et le personnel, le royaume des formes, et la liberté de ne pas vous y attacher. Les formes du monde ont leur place, mais d'un autre côté, il n'y a rien ici. Pour être libre, nous avons besoin de respecter ces deux vérités à la fois. Et moi, je pense que là, c'est vraiment, ça, c'est vraiment très, très important. C'est de ne pas partir dans une extrême. Parce que dans le lâcher-prise, donc il va y avoir lâcher le désir, mais. Du coup, on verra, je suis un peu en avance sur le discours, là, donc vous manquez un peu d'éléments, mais on verra que il va y avoir une notion de lâcher la totalité de ce qui a été construit. Mais en même temps, on doit prendre soin de notre personnalité et de nos compétences, nos qualités. Donc, dans la pratique de la méditation, enfin. Dans cette pratique de la méditation, parce qu'il y a plein, plein, plein de manières de pratiquer, mais dans cette pratique de la méditation, l'idée est de lâcher la pensée, lâcher l'intérêt qu'on a pour nos pensées, et ça d'une façon continuelle. Et quand on acquiert peu à peu avec la pratique la capacité de toujours lâcher, et lâcher, et encore lâcher, peu à peu, ou bien parfois, il y a des moments où on se retrouve avec plus beaucoup de pensées. Il y a, ben, forcément, puisque elles ne sont plus nourries par notre intérêt, elles ne sont plus nourries par notre attention, elles ne sont plus appelées, elles ne sont plus désirées, elles ne sont plus l'outil sur lequel on compte pour réussir, pour progresser, pour être, pour paraître. Il n'y a plus une recherche d'anticipation, il n'y a plus une recherche de sécurité. Il y a, donc, on, peu à peu, on apprend à lâcher l'intérêt pour toute forme de pensée. Et là, ben, ça a pour effet, et ceux d'entre vous qui ont un peu de pratique le savent, il n'y a pas besoin d'énormément de pratique. On peut voir que déjà, rien que d'avoir l'attention de se poser, de revenir à la respiration et de lâcher un peu les pensées, hop, il y a plus d'espace. Mais ça peut aller extrêmement loin, ce plus d'espace. Beaucoup plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Et on va dans ce plus d'espace, non pas parce qu'on se dirige vers le plus d'espace, mais parce qu'on lâche de plus en plus ce qui encombre. C'est pour ça qu'on peut dire que la méditation est une pratique de lâcher prise. On lâche toute saisie, donc l'esprit, l'attention, notre attention ne saisit plus rien parce qu'elle ne s'intéresse plus à quelque chose de particulier. Parce qu'en fait, on réalise qu'on ne cherche plus dans les phénomènes qui se présentent, on réalise qu'en méditation, ce qu'on cherche ne va pas être trouvable dans ce qui a un début, une durée et une fin. Et de pratiquer de cette manière, en fait, a un impact sur notre idée de nous-mêmes, sur la manière dont on s'appréhende, la manière dont on se conçoit, la manière dont on se connaît, sur la connaissance de soi. Transforme en fait profondément l'identification. Parce qu'au début, quand on ne questionne pas, quand on ne se questionne pas, quand il n'y a pas un mouvement de recherche et d'introspection, on peut avoir la notion, quand on dit je suis, on peut avoir la notion que, eh bien, je suis Denis, né ici, ayant tel métier, papa, ayant vécu en Inde, ayant tel type de caractère. Voilà, je peux pas avoir toute une image comme ça de ce qu'est Denis. Et cette image, comme je le disais, voilà, elle n'est pas à jeter, elle est nécessaire. Elle est, hein, on est dans le domaine du relatif, dans le domaine dont on doit prendre soin. Mais quand on pratique à la manière dont je viens de décrire, cette image peu à peu n'apparaît plus. Cette image peu à peu n'apparaît plus. Et peut-être vous pouvez vous en référer juste à la méditation qu'on vient de faire pour ceux d'entre vous qui sont allés aux frontières du sommeil, mais ce n'était pas vraiment du sommeil et tout ça, où les sons paraissaient très distants, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, de se demander, est-ce qu'il y avait beaucoup de, est-ce qu'il y avait beaucoup de jeu là-dedans? Est-ce qu'il y avait beaucoup de sensations de jeu? Est-ce que le moi était très construit? Est-ce que y avait un désir? Est-ce qu'il y avait des désirs d'être comme ceci, d'être comme cela? Est-ce qu'il y avait même du désir tout court? Et donc, quand on lâche peu à peu l'identification à toute cette je suis ceci, je suis cela. Souvent, quand on va demander à quelqu'un, quand on parle de connaissance de soi, il y a des gens qui disent, ah, mais moi je me connais bien, hein, moi je suis incapable de faire ça. Et je... Voilà, on peut être limité à ça. On peut être limité à cette image qu'on a de nous-mêmes. Mais quand on a ce genre de pratique, des pratiques de silence, des pratiques qui nous amènent vers le silence, quand on lâche tout ce qui en nous construit cette image, à ce moment-là, on se retrouve dans des espaces de nous-mêmes dans lesquels cette image n'apparaît pas. Et quand on se retrouve dans des images de nous-mêmes dans lesquelles elles n'apparaissent pas, ce qu'on entend ou ce qu'on ressent par je suis est très différent de quand cette image est présente. je suis est beaucoup moins individuel quand on est dans ces espaces. C'est-à-dire que mon je suis et ton je suis, c'est pareil, c'est la même chose. Parce qu'il y a beaucoup moins de construction. Construction étant, on regardera vraiment beaucoup plus en détail le mois prochain, ce processus en fait de construction du soi, de construction de on verra le point de vue bouddhiste sur la construction de la réalité, là on le verra avec beaucoup plus de support en fait, de textes du bouddhisme et notamment des neurosciences et de... Voilà, il y a des choses super intéressantes en fait à aller explorer de ce côté-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà constater, c'est que quand on lâche l'intérêt, la subjugation qu'on a pour le monde de la pensée, on se retrouve dans des espaces beaucoup plus silencieux, dans lesquels il y a toute une partie de notre identité qui n'existe plus. Et là, c'est là qu'il faut lâcher. Là, le lâcher prise à ce niveau-là, c'est plus sur la part de gâteau ou sur la cigarette, c'est le lâcher prise à cet endroit-là, c'est de lâcher le besoin d'être quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, la pensée n'est plus autant activée. Parce que tant qu'il y a dans le fond ce besoin d'être quelqu'un, ce besoin d'être spécial, ce besoin d'être différent, tant qu'il y a ce besoin, il va y avoir une activation de la pensée, il va y avoir de la saisie dans ce qui se passe. Il va se passer des suggestions dans notre tête qui vont être saisies et qu'on va suivre et qui vont devenir des constructions mentales. Et il y aura toujours un mouvement, l'attention ne pourra pas se poser dans le silence. Parce que ce qui va émerger va attirer. Et on va le prendre. Donc c'est étonnant parce que ici, ce qui est proposé, c'est un désintérêt pour tout ce qui se propose. Et vous verrez de nouveau, contradiction, il y a beaucoup de pratiques de méditation tout aussi importantes à pratiquer où c'est un intérêt pour les choses qui se présentent. Une émotion se présente, hop, on peut rester avec en méditation. On peut rester avec l'émotion et on peut en apprendre, on peut la goûter, on peut la sentir. Mais là, rien. Rien de ce qui se présente ne nous intéresse. Et à ce moment-là, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de saisie. C'est ça qui permet... que quelque chose se pose. Et quand on a le goût de ce qui se pose, quand on a le goût que laisse le silence, la présence, la conscience, à ce moment-là, on peut dire, quand je disais on lâche toujours quelque chose pour autre chose, eh bien on va lâcher la pensée pour revenir à la conscience. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire, je suis en méditation, je remarque que je suis pris dans mes pensées et je lâche les pensées pour revenir à la sensation d'être présent. Là, c'est plus pour revenir à la respiration. La respiration est juste un ancrage pour retrouver cette sensation d'être présent. Et c'est cette sensation d'être présent qui devient mon objet. Parce que cette sensation d'être présent, c'est de l'espace. C'est du non-soi, c'est de la non-construction. Dans cette sensation d'être présent, on sent que c'est la direction de nos recherches spirituelles. C'est le lapin blanc à suivre d'Alice. Et du coup, c'est ça qu'on cherche et c'est à ça qu'on revient. Et on a le goût de ça. Peu à peu, on a le goût de ça. On a le goût, pas simplement le concept, on a le goût de ce que c'est la conscience. Et à ce moment-là, on lâche toute chose. Parce que dès qu'on est saisi par quelque chose, on n'a plus ce goût. On lâche toute chose pour ce goût d'être conscient. Pour ce goût d'espace, pour ce goût de vide. À ce moment-là, un projet qu'on peut avoir, d'acheter une nouvelle maison et comment on va faire les peintures et tout ça, qui, si on est en méditation et que la méditation c'est long, et franchement je demande quand le bol va sonner, et puis là vient cette idée, ah oui, cette maison, hop, ça va nous prendre, parce que on était dans un ennui, et du coup là ça construit un monde qui nous plaît, hop, on est absorbé. Mais si on a ce goût, si on a ce goût de l'espace, si on a ce goût du vide, cette pensée de la maison peut venir. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien du tout, hein. Cette pensée de la maison, elle va venir de la même manière. Mais on ne va pas la suivre. On ne va pas la suivre parce qu'elle n'a rien à nous offrir. Parce qu'on est pleinement nourri par cette sensation d'être présent. Et cette sensation d'être présent, on peut aussi dire, c'est ce qui perçoit. Donc une sensation physique émerge, elle est perçue. Un son, un chien, hop, c'est perçu. C'est ce qui entend le chien qui aboie. C'est ce qui reste avec la respiration. C'est ce qui voit. C'est la conscience. C'est ce qui est conscient. C'est le sujet. Tout le reste, c'est les objets. Les objets sont perçus par le sujet. Et le sujet, à ce moment-là, l'identification change parce que le sujet, c'est je. Je suis ce qui perçoit. Je ne suis plus la respiration, je ne suis plus le corps, je ne suis plus mes pensées. À ce moment-là, ce qu'on vit, quand une pensée s'élève, c'est pas je pense. On ne sent pas je pense. On voit une pensée. Il n'y a plus je pense. L'identification a changé parce qu'on a pu lâcher. Il n'y a plus de saisie. Quand on n'est pas à cet endroit-là, n'importe quelle pensée va nous attraper. Et à un moment, c'est magique. Dans la pratique de la méditation, comment on vient à cet endroit-là? Comment on en vient? Eh ben, c'est presque indescriptible. Mais à un moment, il y a quelque chose de nouveau qui lâche. Pas forcément qu'on essaye, mais il y a quelque chose qui lâche. Et on le sent physiquement. Et je suis sûr, ceux d'entre vous qui ont une pratique de méditation, vous verrez de quoi je parle. On est assis, parfois le corps est un peu lourd, la position, on sent qu'on la tient et on a besoin de la tenir. L'esprit, ça part un peu dans tous les sens, on se reconcentre et tout ça, c'est un peu. On est en train de boulotter là, c'est du boulot quand même. Et puis on tient aussi, on tient le corps. Et à un moment, ça fait presque un petit. Comme si ça descendait d'un centimètre. Il y a un petit truc qui fait pouf. Et là, le corps il tient tout seul. Il n'y a plus l'effort physique. À ce moment, et ça dure parfois une fraction de seconde. Il faut le repérer ce moment-là s'il vous arrive. Hein. Ça dure une fraction de seconde ou parfois quelques minutes. À ce moment-là, le corps est léger. S'il y avait des douleurs, il n'y en a plus. Et les pensées ne nous saisissent plus. C'est pas qu'il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'il va encore y avoir éventuellement des suggestions. Les pensées, elles, au départ, c'est comme les sons. Elles arrivent comme un son, une pensée. Vous avez entendu peut-être pendant la méditation, il y a eu les oiseaux, il y a eu le chien, il y a eu le klaxon, il y a une voiture qui est passée. Ben hop, le son, il va nous saisir. La pensée, c'est pareil. On n'a pas maîtrise de ça. La méditation, c'est pas essayer de ne pas penser. Les pensées, elles arrivent. Tout va jouer si on les suit ou non. Et quand on est dans l'ennui, et quand on est dans un soi encore très construit, et quand on est encore très identifié à la surface de nous-mêmes, eh ben, toute pensée va avoir un côté séduisant. Même si c'est solutionner un problème avec un ami, où il faudrait que. Et on a l'impression que si ce problème était solutionné, tout irait mieux. Mais vient un moment quand il y a ce petit décrochage qui arrive, que subitement le corps est léger, que subitement l'esprit est beaucoup plus vide, les pensées qui viennent de ce problème avec cet ami, par exemple, eh ben, on ne va pas la suivre à ce moment-là. Il y a d'autres techniques de méditation où c'est très important de suivre cette pensée. Je veux toujours les mettre en le dire pour pas qu'on croie que ça c'est le chemin et le reste n'est pas un chemin. Non, il y a d'autres moments dans nos méditations où des pensées vont émerger, et elles sont très importantes, ou des pensées de sagesse, des pensées qui nous informent. À ce moment-là, ce serait dommage de ne pas penser sa pensée et de ne pas aller avec. Mais là, dans ce moment-là, il n'y a pas une pensée qui va venir et qui va nous saisir parce que ce moment-là, il est complet, il est plein. Rien ne manque. Il est pleinement satisfaisant. On ne pourrait rien ajouter pour que ce soit mieux. Et la petite tasse de café ne va pas nous attraper à ce moment-là. On va pas être en attente du bol. Et même si le bol sonne à ce moment-là, ça fait une petite déception presque. Et ça, c'est parce que tout l'univers de nous-mêmes, tous nos désirs superficiels, pas péjoratif, toujours je le dirai, c'est pas péjoratif, mais tous nos désirs superficiels ne sont plus à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est la recherche d'une manière d'exister et d'un bonheur ailleurs que dans la réalisation de nos désirs. Et pour finir, cette petite histoire qui me vient juste là, une histoire que j'aime beaucoup, une interview de Mère Teresa à Calcutta. Et c'est un journaliste qui lui dit, mais qu'est-ce que vous demandez à Dieu quand vous priez? Et elle lui répond, bah, je demande rien, j'écoute. Et alors le journaliste, qui croit tenir un scoop, dit, et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Et elle lui répond, ben, il dit rien, il écoute. Et je trouve, ça me touche parce qu'il y a une immensité. Il y a une immensité dans ce qu'elle décrit, qui pointe du doigt vers quelque chose qui est. Ouais, je n'ai pas les mots, mais ça me touche. Merci pour votre écoute.
Ce discours a été mis à votre disposition par l'association Dharma Nature. Pour soutenir l'association et Denis Roberex, l'enseignant, rendez-vous sur www.dharmanature.org/donation. www.dharmanature.org/donation. /donation.